14h à l'écoute de Canal Sud 92.2, 14h vendredi, c'est donc l'heure de Cinématoc.
Tell me what you do. Tick, 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 tock. 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 Tick, tick, tock. Yo, tell me what you do. Tock, 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 tick. Hey, baby. Tock, tock, tick. Tock, tock, tick. Tock, 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 tick. Tock, 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 tick. Tick.
On commence quand vous voulez.
Bienvenue dans cette heure consacrée au cinéma et Cinématoc accueille aujourd'hui eh bien, Thomas Mickel. Bonjour.
Bonjour.
On va parler, pour parler donc, des rencontres du film d'art de Saint-Gaudens. Une sorte, c'est un festival, hein, les oui. rencontres du film d'art porté par le cinéma Le Régent. Toi, tu travailles au Régent.
Oui, c'est ça, ouais.
Voilà. Et tu programmes donc ce festival avec ta collègue Marine, qui elle, qui a pas pu venir parce que là, ça approche.
Ouais, exactement. On se répartit les choses parce que c'est déjà dans quelques jours.
Dans quelques jours. Ça commence jeudi, le 26.
Ouais, jeudi.
Jusqu'à dimanche, donc du 26 au 29. Ces rencontres proposent une plongée au cœur de la création artistique et transforment le cinéma du Régent en galerie pratiquement. Court ou long métrage, documentaire ou fiction, avant-première ou film de patrimoine sur des artistes tels que Jean-Michel Basquiat, Sophie Kahl, Modigliani. Les rencontres du film d'art ou RFA 2017 ouvrent en grand une fenêtre sur les arts et sur le processus de création. Pour ce parcours dans l'art, les rencontres invitent aussi des guides. Trois personnes seront ainsi présentes. André Labarthe, s'il est connu, très connu pour ses portraits de réalisateurs dans cinéastes de notre temps, et aussi réalisateur de documentaires autour d'artistes tels que Georges Bataille, Caroline Carlson. Et puis seront aussi invitées deux réalisatrices, Béatrice Soulet et Laetitia Michaels, je pense qu'on prononce à l'américaine.
À l'américaine, oui, c'est ça.
Qui sont donc elles toutes deux cinéastes et qui vont présenter des documentaires sur des artistes. Pour Béatrice Soulet, ce sera Ousmane Sow principalement, mais aussi un documentaire sur Manu Dibango. Et Laetitia Michaels va présenter trois documentaires au Régent. Rien ne s'efface sur l'artiste
Naomi Kawase.
Réalisatrice Naomi Kawase. Et là-bas souffle le vent, là il s'agit de suivre le plasticien Laurent Parient. Et le dernier c'est Kijima Stories qui va suivre la reconversion d'un yakuza en moine. On en parlera tout à l'heure avec elle puisque Laetitia Michaels sera avec nous au téléphone. Et puis pour se mettre dans cette ambiance de festival du film, des rencontres du film d'art, on va écouter tout de suite une sorte de petite de mélange de bande-annonce et puis après on en parle tout de suite avec Thomas.
À partir d'un certain moment, une nécessité pour la sensibilité de faire appel aux troubles. On ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu.
Censure multiple et pour la plupart invisible, y compris pour ceux qui les exercent.
I'm an artist. And you tell people that, they usually say, what's your medium? I usually say, extra large.
Hey Jim, Jim, just a minute, y'all. I want you to spell for me something. I want you to spell for me New York.
Can I offer you a lift downtown?
People throw you out of your home, rip you off. What are you gonna do? You gotta be positive.
Victoria.
Well, we artists have managed to keep the last bit of intelligence and beauty going.
Nous revenons de Bolinas où tu m'accompagnais, et voilà que l'on te propose de faire mon portrait pour empreinte. Je n'ai pas envie de m'asseoir devant une caméra et d'être filmée en train de te raconter ma vie. J'ai trouvé une règle du jeu très simple. Je préfère rester seule et enregistrer ce qui me passe par la tête. Et comme je m'absente un mois, te laisser les clés de chez moi. Tu auras accès à mes tiroirs, mon ordinateur, mes archives. Tu trouveras facilement dans les dossiers les films que tu as déjà tournés sur moi au fil des ans. Et puis aussi mes propres films. Suis le texte à ta convenance. Si je parle de quelque chose que tu ne trouves pas chez moi, les documents correspondants, filme la maison, le chat. Ou si je n'en dis pas assez, mets de la musique. À toi de jouer. Alors, ça se termine sur le documentaire La voix qu'on entend, c'est Soufical, un documentaire de Victoria Clay Mendoza. En remontant, on a ensuite Basquiat, on a entendu la voix de Basquiat dans un film de Edo Bertoglio. Basquiat Downtown 81. En remontant encore, on a entendu la voix de Pierre Bourdieu, de Georges Bataille, et on a commencé avec Écho de la montagne, un film de Nicolas Echevarria qui suit l'œuvre murale du Mexicain Santos de la Torre. Et je crois qu'on
on a entendu Quentin Garrel aussi.
Et voilà, et on a entendu Quentin Garrel qui rentre dans une boucherie pour acheter une tête de veau.
Et de porc.
Et de porc, voilà. Et alors, bon...
On va raconter un peu plus.
Oui, oui.
Non, en fait, déjà pour un peu essayer de donner un peu une notion de ce qu'est le film d'art, parce que c'est vrai que ça peut vouloir tout et rien dire. En fait, comme vous le disiez justement, nous, à la base... Marine, Charles et moi et l'équipe, toute l'équipe du Régent, hein, on s'occupe d'une salle de cinéma. On est des exploitants de salles de cinéma. Et donc, on aime le cinéma, on aime les films, voilà. L'idée de ce festival est née de plusieurs choses. Déjà, de ne pas faire un festival juste de films avec des films en avant-première qui sortiront de toute façon dans les salles. Donc ça, c'était déjà latent depuis longtemps. Ça, on se disait, si un jour on doit faire un festival, soit on n'en fait pas, soit on trouve quelque chose d'original. Voilà. Ouais. Y en a un peu partout, mais surtout ça a été la découverte de ce genre en fait, de ce genre film d'art en fait, qui est vraiment un genre cinématographique méconnu. Ce genre cinématographique, un peu pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment, il y a eu plusieurs vagues. Alors en France, elle est dans les années 60. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les cinéastes se sont dit, mais pourquoi ne poserions pas notre caméra sur d'autres artistes ? Ouais. Pourquoi nous n'irions pas les filmer, les artistes, en train de créer, quelle que soit la discipline, quel que soit le domaine artistique ? Ça peut aussi être filmé des cinéastes qui filment même des cinéastes. Hein. Mais voilà, c'est cette question, ce questionnement-là de ce sujet-là. Donc ça part de cette réflexion. Et ensuite, il y a eu beaucoup de films faits, énormément, qui ne sont pas sortis dans les salles de cinéma, ou très peu. Il y a eu quand même des diffusions, on va dire, mais pas de réelles sorties. C'est ensuite des films qui ont trouvé assez vite un écho en télévision, puisqu'il y a eu notamment... Là, je parle de la France, hein, parce que par exemple, en Belgique, on en parlera peut-être, mais ici, c'était déjà mis bien avant. C'est un petit peu les précurseurs à ce niveau... c'est les précurseurs du film d'art. C'est souvent les précurseurs dans beaucoup de choses, oui, d'ailleurs, les Belges. Oui. Et puis après, on dit tout ce que c'est... très français, mais en tout cas c'est vrai qu'en France il y a eu vraiment une scène, on va dire, comme on peut dire en musique, avec vraiment des réalisateurs de talent et une vraie réflexion comme on sait faire souvent aussi, c'est-à-dire de pousser les choses loin, quoi, en fait. Et ensuite, donc j'ai fait une petite parenthèse, ce que je voulais dire c'est que ces films-là ont trouvé leur chemin plutôt en télé. Il y a eu la création de la chaîne Arte, enfin la 7 puis d'Arte, ouais, qui, elle, a voulu avoir une identité un petit peu différente. Et puis, du coup, ces films sont plutôt passés via Arte, qui, en ses débuts, n'avait pas vraiment de limites artistiques, on va dire, ouais, qui était vraiment une chaîne d'expérimentation. Et voilà, ensuite, ça s'est transformé, c'est-à-dire que ces films ont continué à être faits. Ils ne sont plus diffusés qu'en festival, pour beaucoup. Et
ou en galerie,
voilà, exactement, voilà, c'était la fin de ma phrase, oui, voilà, pardon. C'est vraiment non, je dis pas ça pour vous, c'était vraiment, tout ça pour vous dire que vous avez, c'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. Et ensuite la télé, elle, s'est un peu transformée, et maintenant on a toujours l'animateur qui explique aux spectateurs ce que c'est que l'art, quoi. Voilà, on a une sorte de filtre permanent. Et donc, ce n'est plus du. À partir de là, on peut dire que ce n'est plus du film d'art, quoi. Ouais. Hein, quand il y a, comme je disais, ce filtre, cet intermédiaire, c'est fini. Il n'y a plus de réelle création et de réflexion. Donc voilà un petit peu le parcours du film d'art. Nous, on en a commencé à voir ces films parce qu'on juste par le médium film, en fait. Et quand on a vu ça, on s'est dit, mais c'est extraordinaire, quoi. Là, il y a un champ extraordinaire. Et c'est du cinéma, c'est-à-dire que c'est une réflexion de cinéaste et de cinéma. C'est trop beau, quoi, ouais, pour être vrai. Et donc l'idée, c'est de ramener, ramener ces films-là dans la salle de cinéma, qui est, comme on le dit un petit peu dans les textes qu'on prépare, qui est un peu leur lieu originel. Ouais. Hein, et donc ce festival, voilà, sur 4 jours, il y a plus de 30 films. Ça commence dès 10h30 jusqu'à 19h sur 3 salles en même temps. Donc il y a des parcours, c'est à vous de vous faire votre parcours. Il y a des projections de films. Et puis le soir, vers 19h30, les 3 salles s'arrêtent pour se réunir dans une salle où il y a une rencontre avec un réalisateur. Et justement, dans ces rencontres, on essaie de pousser un peu, de discuter justement de ça, du film d'art, de cette réflexion-là, en fait. Voilà. Et toujours en gardant un cap dans ce festival, c'est d'ouvrir les choses. C'est-à-dire que ça, c'est aussi très important. On n'est pas des... l'équipe, là, on n'est pas des érudits d'art, en fait. On a une culture de base, la culture commune qu'on a tous, très liée à notre scolarité, d'ailleurs, souvent. Et voilà, ça nous intéresse, mais nous, on aime particulièrement le cinéma. Mais le reste, on n'est pas des érudits. On va au musée de temps en temps, mais sans y être vraiment assidu, quoi. Ce qui est important, c'est que ces films, nous, on voit des films. Et c'est à travers les films qu'on découvre des artistes. Et que même nous, des fois, on découvre des artistes qui, en fait, sont un peu connus dans le milieu, mais qu'on connaissait pas forcément. Ouais. Mais c'est avant tout le film qui nous a intéressés. Puis l'artiste, parce qu'il est au cœur du film. Mais c'est d'abord le film. Et ça, c'est important aussi que le spectateur se retrouve là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de venir en connaissant, s'y connaissant en art, on peut, c'est très ouvert en fait. Et ça, on l'a toujours en tête, c'est-à-dire que qu'on puisse se croiser comme ça entre publics et que on n'ait pas peur, comme dans un musée, et de rapprocher ça du cinéma, qui est un lieu encore très populaire. On a cette chance-là. Et de pas justement qu'il y ait cette barrière des musées où peut-être des fois on a l'impression de pas avoir les outils. Là, les films nous donnent les outils puisqu'on voit l'artiste en train de créer. Il n'y a pas besoin pour ça de connaître beaucoup de choses. On voit les choses. Parfois, nous sont expliquées dans les films. Et donc, c'est cette hauteur aussi de regard qui est importante et qui permet justement de partager ces films-là et de croiser les choses, quoi. Voilà, à travers le cinéma.
Et d'ailleurs, bon, alors on comprend que c'est une idée, une initiative comme ça spontanée. Vous avez découvert ces films. On ne peut les voir nulle part ailleurs. Enfin, on peut pas les voir dans une salle de cinéma. Vous décidez de faire un festival sous forme de rencontre. Et d'ailleurs, vous êtes tout seul. Vous n'êtes pas associé à un centre d'art. Il n'y a pas les abattoirs. Je vois pas le parvis.
On est un cinéma indépendant et privé.
Mais vous pourriez quand même être.
Alors on a eu parce que ce film d'art nous a quand même été amené. Forcément, quand on découvre quelque chose, c'est toujours quelqu'un qui nous en parle. Oui. Donc ça nous était amené par le milieu de l'art, par un centre d'art qui nous a dit il y a ces films qui existent. Ensuite, nous on est allé. On s'y est intéressé comme quand on a une discussion, qu'on nous parle d'un musicien et qu'on va écouter sa musique.
Et puis qu'on aime et puis qu'on voilà, continue.
Voilà, donc voilà. Mais pour dire, c'est quand même assez, ces deux univers assez différents en fait. On le voit puisque la première année, on a collaboré avec un centre d'art, mais on n'a vraiment pas. On peut se retrouver sur certaines choses. Mais on a quand même le cinéma et l'art l'art contemporain, mais je parle dans le milieu qui est de l'exploitation ou de la présentation.
Dans le côté pratique.
Voilà, on a quand même, c'est quand même très, on est quand même assez différent, on a une génétique très différente et on fait pas forcément, des événements pour les mêmes choses. Voilà, sans m'étaler. On ne le fait pas pour les mêmes raisons et parfois, il vaut mieux, quand on part comme ça, quand on n'est pas d'accord sur la finalité d'une chose, ça risque de porter préjudice et à l'événement, aux spectateurs. Donc il faut avoir un cap, savoir où on va. Et puis nous on l'avait ce cap depuis le départ. Donc on sera indépendant jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est pas du tout une posture, mais enfin je dis ça c'est un peu idiot parce que peut-être qu'on n'est pas du tout fermé. Mais je veux dire quand je dis ça c'est juste ça peut être trompeur un peu ma phrase. C'est juste que cette programmation, on est des exploitants de salles de cinéma, on connaît le cinéma et programmer des films c'est notre métier. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, et vous voulez garder ce regard-là.
Et on veut garder ce regard-là, voilà. Ouais. C'est pas cette indépendance comme un... Je suis pas en train de lever le poing en l'air, mais c'est ça ce que je veux dire.
On l'entend, voilà. Oui. Parce que du coup, si on enlève cette spécificité, on enlève aussi cette fraîcheur, ce regard aussi de novice.
Exactement.
Même si au fil du temps, vous commencez vous aussi à vous spécialiser dans votre regard, le public de Saint-Gaudens avec vous certainement.
C'est ce que vous dites. Le film d'art, c'est du cinéma. Ouais. Ce regard de cinéma. C'est important que ce soit nous qui l'ayons, quoi.
Mais c'est quand même un peu incroyable parce que dans la démarche, il y a quand même l'idée, c'est-à-dire que le cinéma s'est emparé de l'art depuis tout le temps. Il y a une tradition française, belge, et l'art stimule aussi le réalisateur à faire un film sur l'art, pousser un peu les limites, chercher dans le format film. Et pourtant, les deux mondes ont du mal à communiquer, disons, en tout cas en termes de lieux ou d'équipement. C'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'on a quand même vu débarquer le film dans des centres d'art, dans les galeries. Il y a même des projections maintenant en 35 mm qui se font dans des musées. Donc le film est rentré vraiment dans les galeries et les galeries ou les centres d'art ont du mal à rentrer dans les cinémas. Donc
c'est exactement ça, oui. Ouais. C'est tout à fait ça. Vous avez vraiment vous avez tout à fait complété ce que je disais tout à l'heure. On a une génétique très différente.
Ouais.
Et en effet, ça va dans un sens et pas dans l'autre. Donc c'est à nous aussi à un moment donné de prendre les choses en main. C'est cette indépendance-là dont je parlais. C'est juste de prendre les choses en main, quoi.
Et du coup, c'est quoi qui vous guide pour vous y retrouver dans ce choix, puisque vous le faites tout seul comme des grands. Donc j'imagine que vous débattez, vous discutez. C'est quoi qui fait c'est la qualité du film, enfin que le film soit vraiment un film de cinéma. C'est aussi ce que ça montre, si le film est rare. Est-ce que toutes ces questions-là à la fois.
Ouais, c'est une très bonne question. On en voit beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
C'est-à-dire un peu.
On a dû en voir peut-être au moins une centaine, là, je pense, un an. Donc il y en a plus de 30, mais voilà. Donc vous voyez un peu le rapport au pourcentage est direct, là, pour le coup. C'est avant tout, d'abord la qualité cinématographique du film. C'est-à-dire qu'un film qui est trop télé. On se dit que c'est dommage justement de le passer en salle puisqu'on sort un peu, de ce qu'on recherche. Mais cependant, il y a des films qui n'ont pas forcément un format cinéma de par leurs moyens à la base.
Oui.
Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas les mettre ces films-là de côté. Et donc, il y a en effet la forme, mais il y a aussi le propos qui est très important et l'intention. Donc, il y a parfois des films, le matériel. Peut être pas forcément de la pellicule ou un format cinéma. Par contre, dans la recherche du propos et de l'intention, il va vraiment y avoir une intention d'originalité. Et justement, c'est un film qui ne peut pas passer à la télé parce que la télé ne peut pas le diffuser. Elle n'a pas la case et le film n'en a pas les codes. Mmh. Et donc ça aussi, c'est important de les intégrer, ces films-là, à la programmation. Donc, faut pas être jusqu'au boutiste quant au cinéma et quant à la forme cinéma, il faut pas être arrêté. Et d'ailleurs, c'est la magie du cinéma, c'est-à-dire que de toute façon, il ne faut pas que la forme s'arrête. Certes, le cinéma dominant a une forme bien définie, mais tout autour, on voit que ça bouge énormément. Faut y être attentif aussi à ça, et c'est important dans le cadre d'un.
Et d'autant plus, le film d'art permet.
Le film
non narratif. Alors, par exemple, le dernier extrait qu'on a écouté, le film de Sophie Calle, c'est des utilisations d'images un peu volées. Alors, pas volées, puisqu'elle donne parfois la caméra, parfois elle l'utilise elle-même. Il y a des formats différents. Ouais. Parfois, on n'entend pas trop bien, mais par contre, on comprend le processus intellectuel, de conceptualisation. Exactement. De Sophie Calle, comment elle travaille. Alors, je parle de Sophie Calle, mais il y a aussi beaucoup d'autres films comme ça où on va découvrir alors des choses aussi assez des films carrément expérimentaux, hein, avec un film qui s'appelle Expérimental, ça c'est un vieux film. Alors du coup vous puisez aussi, vous essayez de faire un peu ce dialoguer des films plus anciens avec des films récents.
Oui, c'est ça, oui. C'est aussi un choix aussi dans la programmation, ça rejoint la question précédente aussi. Il n'y a pas de discipline artistique définie. On se dit pas, tiens, faut qu'il y ait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. On essaie quand même, c'est quand même, des fois, on se dit, faut pas qu'il y ait trop de films sur le cinéma, faut pas qu'il y ait trop de films non plus sur la danse, sinon faut quand même essayer de varier. Mais c'est pas le critère définitif, mais il rentre en jeu parfois, ce critère-là. Quand on a tous les films, l'aspect
alors
global,
comme il faut que plusieurs films plaisent pour les départager.
C'est important que les films se répondent aussi, que la programmation, c'est une histoire, c'est un cheminement, et que les films se répondent les uns aux autres. Mais en effet, comme le film d'art commence à avoir un âge, c'est pas qu'il est vieux, mais disons qu'il a un âge.
On peut avoir du recul.
Un âge de raison,
mais
bien plus même. On peut avoir du recul et c'est important aussi de passer des films des années 60, des années 80, et tout ça, ça fait partie d'une histoire. Et comme ce sont souvent des films qui recherchent une forme originale, ils sont vachement d'actualité, quoi. Quand on les voit, on se dit, mais à part le grain de l'image, ça a pas vieilli, quoi. Il y a quelque chose, ça nous parle encore parce que, une fois de plus, on voit autre chose et qui est abordable en plus, qui parle directement. Et donc, il y a ça sur le cinéma expérimental. On essaie de pas trop de se limiter parce que c'est pareil. Ce serait autre chose, ce serait un autre festival. Donc on avait fait il y a 2 ans une soirée, une rencontre justement sur le cinéma expérimental avec Simone Dompère,
qui traverse
vidéo, voilà, donc qui était venue, qui avait une carte blanche, c'était super intéressant. Elle avait animé la soirée, c'était super, mais c'était une soirée, voilà. Ouais. Après, on essaie de ne pas non plus passer, et on essaie de se limiter, de ne pas aller vers là, parce que sinon, on décale le propos.
Vous ne voulez pas vous spécialiser ?
Non, du tout.
Et d'ailleurs, vous ne vous accompagnez pas non plus ces projections de conférences générales sur, une grande,
non,
sur un grand mouvement de l'art, ce qui pourrait, parce
ce
que je vois,
pourrait, oui,
il y a un
oui.
film sur le dadaïsme, il y a... Par exemple, sur l'œuvre de Jodorowsky, entre ses dessins, son cinéma, on pourrait très bien faire un petit...
Ça oui, exactement. Voilà. Ouais, non,
vous
pourquoi
avez,
pas hein,
ça,
mais
vous l'avez, vous,
non,
ça,
non,
vous l'avez
non,
posé
non.
dès le départ. Vous voulez pas faire un...
Au départ, on part vraiment sur le cinéma. Voilà. C'est vraiment ça. Après, faut pas se... C'est la quatrième édition. Bon, ça commence à avoir pas mal de succès, donc je... Ça continuera et je touche du bois à la table, un petit coin en bois, donc je le touche pour que ça dure longtemps. Donc faut pas dire non, on fera pas ça parce qu'on sait jamais. Et puis on est après ouvert aux rencontres aussi qu'on fait. Et donc s'il y a des opportunités, pourquoi pas. Hein, mais pour l'instant c'est pas le question. Enfin en tout cas c'est pas dans notre réflexion. Ça vient pas dans, mais ça viendra peut-être un jour. Mais pour l'instant ça ne l'est pas.
Peut-être que vous pourrez proposer plus tard quelque chose sur qu'est-ce que c'est le film, enfin comment le film d'art, comment ça marche, une rétrospective aussi sur quelques années, ça pourrait.
Dans les soirées, on essaie de toujours d'aborder avec
cette question-là.
Ouais,
enfin,
ouais,
cette
alors
cette
par
définition.
Des angles très différents. Parce que tout à l'heure, on aura Laetitia au téléphone. Elle se dit pas, je vais faire un film d'art, quoi, du tout. Mais nous, quand on regarde ces films. On se dit c'est un film d'art, ouais, voilà. Ouais. Et ça c'est intéressant. Donc on l'amène toujours le film d'art dans les soirées, mais toujours par un biais différent. C'est ça qui est rigolo, c'est que les soirées se ressemblent pas du tout parce qu'en fonction du réalisateur, en fait, on va parler du film d'art, mais pas de la même chose et on n'y vient pas de la même manière. Et ça c'est assez intéressant, ouais.
Oui, parce que d'ailleurs qui décide que c'est un film d'art finalement, puisqu'il y a pas de passage dans une salle. C'est
exactement.
Quoi le distributeur qui le décide en
non,
général
non 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 c'est justement ça, c'est-à-dire que c'est encore ouvert, voilà, c'est encore ouvert, ouais. Et nous ça nous permet des fois d'avoir des petites dans la programmation des petites ce qu'on pourrait considérer comme des pas de côté qui nous semblent pertinents. On a entendu Bourdieu, on en parlait hors enregistrement. C'est un film d'une heure qui s'appelle Sur la télévision. Il expose sa pensée du fameux livre qu'il a écrit, qui s'appelle aussi Sur la télévision, de sa réflexion. Et ce film-là, par exemple, c'est un sociologue qui déroule le fil de sa pensée. On peut se dire, mais c'est pas un film d'art en soi. Mais par contre, nous, on trouve ça pertinent parce qu'il parle de l'image, il parle justement de la télé, il parle du fait qu'à la télé, on ne peut pas tout exprimer. Et filmer la pensée, après tout, la pensée, c'est aussi un art. C'est une forme d'art, en fait, la pensée. Et dans l'art, il y a de la pensée avant le geste. Et donc, filmer la pensée, nous, par exemple, ça nous semble pertinent de le passer là. Et filmer le déroulement d'une pensée, puisque dans ce film, ce qui est rigolo, c'est qu'il est filmé, en fait, au niveau cinéma. Là, pour le coup, il est filmé, il y a un plan, il est filmé sur son bureau où il travaillait tous les jours, derrière son étagère avec des cartes postales qu'on lui a envoyées. Et il parle voilà face à la caméra pendant une heure sans coupure, sans personne.
Là,
et puis
force de l'idée,
voilà la force de l'idée, exactement,
et pas de mise en scène,
exactement,
zéro,
exactement,
zéro changement,
mais
de
ça
plan.
Pose une question, ouais. Et du coup c'est intéressant. Alors nous on le met dans les rencontres du film d'art, on sait que c'est pas un film d'art, on pourra pas dire que c'est un film d'art, personne ne dira c'est un film d'art et on sera tout à fait d'accord. Par contre ça nous semble pertinent de le mettre dans les rencontres du film d'art parce que ça apporte une réflexion aussi sur le filmer l'art et filmer la réflexion, la démarche en fait, ouais. Voilà, ouais. Et c'est cette histoire en fait, le film d'art c'est cette histoire que ça raconte. Quand on va dans un musée ou dans une galerie, on voit un tableau fini. Je prends la peinture, mais ça pourrait être une œuvre architecturale, hein. On peut visiter un lieu ou mais quand on voit quelque chose de fini, eh ben le film d'art il raconte qu'est-ce qui se passe entre le moment où il y a rien, le moment où l'artiste entre en réflexion, où il absorbe, le moment où il recrache, où il crée, et ensuite le film s'arrête là. La suite, C'est l'exposition de l'œuvre. Mais le film d'art, c'est cette histoire que ça raconte. C'est l'histoire derrière le tableau ou à l'intérieur de l'œuvre architecturale. Ou voilà, c'est cette histoire-là que ça raconte.
Et d'ailleurs, souvent, il me semble que moi, ça, c'est les films les plus réussis. On s'approche un peu du mystère de cette création, mais en même temps, on n'est pas trop dans l'explication.
Non.
Il reste une épaisseur quand même derrière l'artiste. Et je pense que le film d'art, c'est aussi un film de... il me semble que pour s'intéresser à un artiste, il faut quand même aimer son travail et être soi-même traversé par des questions de création. Et du coup, c'est aussi un dialogue entre un réalisateur et un artiste,
exactement,
avec deux artistes.
Ouais. Et avec les spectateurs, le dialogue... alors, il y a des spectateurs artistes qui ont une certaine lecture, mais il y a des spectateurs non artistes et non initiés. Et le dialogue se fait par la simple curiosité de voir faire, en fait,
ouais,
aussi.
Ouais.
Il y a aussi ce niveau-là.
Comment on fait
Nous, ouais. C'est les premières choses. Ah ouais, le mouvement de la main, ah ouais, ça, d'accord, ça se passe comme ça, mais dis donc, il fait un trait là, et ah oui, ça fait ça à la fin, dis donc, c'est étonnant quand même, j'aurais pas pensé à ce... Ah, il pense à ça pour finalement faire cette œuvre-là, quoi. Mmh. Tiens, il a pensé à ça, et le résultat, c'est ça, tiens, c'est quand même étonnant. Voilà, il y a aussi, c'est ça qui est agréable, hein, c'est qu'il y a... Il y a cette réflexion aussi, il y a cette chose et qui est forte aussi en émotion et qui est forte et directe. Ouais. Et donc ça c'est bah, d'ailleurs c'est important de reprendre l'extrait de Quentin Garrel là qu'on entend. Donc c'est l'extrait que vous avez entendu où en fin de compte pour le visualiser, il rentre dans une boucherie et donc il y a le boucher derrière son comptoir et puis il rentre comme un client quoi. Et puis il dit bonjour, je viens chercher la tête, vous l'avez entendu, je viens chercher la tête de veau et la tête de porc. Puis le boucher passe dans le frigo et puis il arrive avec deux grosses têtes énormes quoi, voilà. Et c'est rigolo parce qu'il y a justement ce rapport du client, on s'y retrouve, on a l'impression d'aller chez le boucher. Et puis donc il est là, waouh, elles sont énormes, etc. Il lui emballe et puis il part avec. Et le plan d'après, il est dans son atelier avec la tête sur une table et il la prend en photo. Et ces photos lui serviront de modèle pour sculpter une tête de cochon en bois avec une tronçonneuse puis affinée avec ça part toujours de quelque chose de la vie quoi. Et ça, ce chemin, et comme je redis, cette histoire là elle est importante. Il y a l'œuvre finie mais il y a de là où elle vient aussi, et souvent de là où elle vient de là où on vit tous en fait, artistes et non artistes quoi.
Ouais. Et puisqu'on évoquait, enfin, on va appeler dans pas longtemps Laetitia Miklos, je voulais savoir un petit peu comment du coup vous aviez choisi aussi les invités. Alors par exemple, vous invitez André Labarthe, qui est connu pour cette série qu'il a fait, Cinéaste de notre temps, avec deux portraits de cinéastes. Il était critique, je crois que c'était bien au Cahier du cinéma, où il a découvert c'était un des premiers à parler d'Antonioni ou de enfin, c'est un grand nom dans le cinéma.
C'est un théoricien aussi.
Plutôt du côté théoricien. Mais je ne soupçonnais pas qu'il s'intéressait à énormément de formes d'art. Et d'ailleurs, donc vous allez montrer un documentaire qu'il a réalisé autour de Georges Bataille, qu'on a entendu, un extrait en début d'émission. Et Caroline Carlson aussi. Alors, surprise, comment vous avez découvert ça? Comment vous avez découvert son travail?
Bah, c'est pareil, c'est en voyant des films. Au bout d'un moment, on commence à avoir un film amène à un autre, un réalisateur à un autre. Tiens, dans ce film, il est cité. Tiens, voilà. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à s'y connaître un petit peu, quoi. Enfin, voilà, avoir un spectre assez large. Et puis, on en découvre encore beaucoup. Et voilà, c'est comme quand on rentre dans un domaine. En fait, après, il y a plein de choses qui nous arrivent. Et là, sur ce travail de Labarthe, c'est vrai que c'est assez intéressant. Il est très connu pour ses portraits de cinéastes de notre temps, qui d'ailleurs passaient à la télé. C'est ce que je disais au début. On trouvait les choses, alors que c'est très cinématographique.
C'était à l'époque où la télé avec un peu d'argent. Et il en a profité. Il s'est glissé dans l'interstice.
Il n'avait pas peur de faire des choses un peu, voilà, avec des réalisateurs qui. Qu'on ne pouvait pas cadrer, donc on laissait faire.
Parce que lui, justement, il avait déjà cette idée-là, c'est qu'il confiait la caméra à des réalisateurs pour aller filmer d'autres réalisateurs.
Il en a réalisé quelques-uns, et après, il a produit, et puis justement, il disait, moi c'est bien, mais il faut qu'il y en ait d'autres, voilà. Et donc, il a fait une série de films sur des danseurs, des danseuses. Il y en a plusieurs, donc nous, on en a pris un qui nous plaisait particulièrement. avec lui, parce que ces soirées-là, à chaque fois, on les organise vraiment avec les invités. Ouais. C'est pour ça qu'on dit carte blanche. Voilà, c'est on aime bien cette idée que quand le spectateur vient, il y a déjà une réflexion entre l'invité et nous, et que quand on anime la soirée, ça coule, quoi. Mmh. Voilà. Ouais. Et donc, avec André Labarthe, on s'est dit que ce serait intéressant de prendre un film sur la danse, un film sur la littérature qui sont diamétralement opposés. C'est-à-dire que la danse est l'art du mouvement par excellence, et puis la littérature, bon, on peut se dire l'auteur est assis avec c'est le geste de la main, mais bon, voilà, c'est plutôt le geste intellectuel, et donc c'est un petit peu aussi un art immobile dans le fait de faire. Et donc, ça nous semble intéressant, ces deux choses, comment filmer, deux choses complètement diamétralement opposées. Mmh. Et puis, un film sur la littérature, en plus, ça faisait longtemps qu'on en cherchait. On avait eu du mal à trouver, comment filmer cet art-là. C'est assez difficile, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est comme ça que le choix des films s'est fait. Et c'était aussi un peu pour ça qu'on l'a invité, on avoue, parce que quand on a vu qu'il y avait ces deux champs larges, la danse et la littérature et le cinéma, on s'est dit, bon, voilà, il faudrait vraiment le faire venir. Là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose.
Et oui, il se trouve que c'est quelqu'un qui a ces passions-là pour tous les arts.
Et oui. Et qui n'a pas de frontières.
Il devait être content qu'on le sorte un peu que du cinéma.
Alors, il est très demandé.
Ouais. Ah oui ?
Ouais. Ah, il est très demandé. Donc, ces films d'art ont une vraie vie. Il est beaucoup invité, c'est une référence.
Ouais. C'est juste moi qui l'ignorais, comme quoi.
Et voilà, non, mais voilà. Et en fait, il est très demandé. Ouais, ouais. Et justement, parce qu'il a il a ce regard-là, ce recul et cette réflexion, il est beaucoup demandé, il est beaucoup pris. André Labarthe. Ah oui. Ouais.
Et alors ensuite, Béatrice Soulet, vous l'avez.
Béatrice Soulet, on a découvert ces films, on a découvert ces deux films sur Ousmane Sow. Et on est vraiment c'était bien avant que Ousmane Sow décède. On est vraiment tombé amoureux de ces films. On s'est dit c'est des films vraiment superbes, quoi. Il y a un regard extraordinaire sur les œuvres et sur l'artiste à travers les œuvres. Et il y a un équilibre qui est atteint entre justement l'intime et ce qu'on peut montrer et dire au spectateur, et on a su après coup qu'en fin de compte, c'était aussi sa compagne, Ousmane Sow, donc d'où ce regard un peu singulier.
Ouais, ouais.
Et donc on s'est dit, comme elle a fait deux films sur Ousmane Sow, faisons une soirée avec elle. Entre-temps, une fois que la soirée était, que le programme était fait, entre-temps, juste avant qu'on imprime, ouais. Bon, voilà, Ousmane Sow est malheureusement décédé. Mais elle vient, elle sera là, on s'est posé la question, enfin, on l'a mise à l'aise en lui posant la question que surtout qu'elle ne se sente pas obligée. Et puis, non, elle veut être là, je pense qu'elle veut aussi, ça continue, quoi.
Hein,
c'est ça, l'art aussi, c'est qu'à un moment donné, l'art, lui, il perdure. Donc il y aura cette soirée. Je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. J'espère qu'on ne sera pas non plus trop une soirée hommage. En même temps, ça ne peut pas ne pas l'être.
C'est évident qu'il y aura de l'émotion.
Il faudra voir comment...
Et Béatrice Soulet, en fait, avant d'être la compagne d'Ousmane Sow, elle faisait déjà des documentaires.
Ah oui, elle fait des super films. Hein.
Ouais. Et là, vous allez aussi diffuser un documentaire qu'elle a fait sur Manu Dibango, qui est plus une évocation. Enfin, il est assez étonnant. Alors moi, j'ai juste pu voir l'extrait
Lina.
Parce qu'on est un peu... On est dans un rythme. Alors on imagine Manu Dibango, cette force, cette gouaille, cette personnalité, cette présence avec une voix. Et elle arrive presque à faire que cette présence s'efface un peu pour être presque un esprit comme ça.
Oui, avec c'est exactement ça, ouais.
Et on va écouter un petit extrait.
C'est un très beau film. Celui-ci passe dans la programmation, pas dans la soirée. Il est dans la programmation courante.
Et c'est le film s'appelle, je ne sais plus comment. On va l'écouter, puis ensuite, ça me laissera le temps d'aller d'appeler Laetitia Miklos qui sera avec nous juste après.
Ma sta parlando, 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 Joséphine était américaine. Elle avait deux amours. Moi, je suis africain camerounais. J'ai deux amours CFA. C'est-à-dire au moins quatre amours. C'est le CFA, c'est toujours comptoir français d'Afrique. Alors, quatre amours, pourquoi? Parce que naturellement, il y a le Cameroun, il y a la France, il y a la musique. Et je laisse le choix au quatrième. Par la pirogue que mon père est venu de Yabassi, un petit village qui est à 40 km de Douala. Et c'est par une plus grande pirogue que moi je suis parti plus tard, quoi. Je suis parti toujours en traversant les océans. C'est toujours l'eau. L'eau qui purifie et l'eau qui permet d'aller ailleurs. Ma pirogue à moi s'appelait Ogar. Et je suis parti de Douala à Marseille avec cette pirogue-là. Et plus tard, j'ai pris une plus grande pirogue, celle-là, sur les airs, avion, pour aller de l'Europe aux États-Unis. Donc, c'est toujours une histoire d'eau.
Voilà un extrait donc de Manu Dibango, Silence.
Silence, voilà, c'est...
C'est un...
titre évocateur.
pour parler du musicien. C'est déjà tout un programme. Et je suis maintenant en ligne avec Laetitia Miklos. Bonjour.
Bonjour.
Allô, vous m'entendez bien? Oui.
Oui.
Alors, vous faites partie des invités du festival, des rencontres du film d'art. Vous êtes réalisatrice, scénariste et critique de cinéma. Après des études de sociologie, d'ethnologie et d'audiovisuel, vous vous tournez vers le documentaire de création. Vous dites que vos films naissent du hasard et surtout des rencontres. Vous filmez d'abord des personnes qui vous touchent et vous dressez un portrait d'elles. Est-ce que vous avez été surprise de cette invitation aux rencontres du film d'art?
Oui, très agréablement surprise et ravie, oui, de pouvoir présenter les trois films là, que j'ai réalisés autour de deux artistes.
Donc, oui,
il y a
le
film... voilà, sur Naomi Kawase, Rien ne s'efface. L'autre film sur l'artiste plasticien Laurent Parente,
ouais.
S'appelle Et là-bas souffle le vent. Et puis un autre sur Kijima Stories, qui passe un film sur un artiste, mais qui suit un dessinateur. Voilà aussi.
Oui, et un film, c'est le point de départ, c'est un yakuza qui devient moine.
Voilà, Kijima Stories, en fait, j'ai passé un petit peu de temps au Japon il y a 4-5 ans, en fait. Et on m'avait raconté l'histoire d'un yakuza, donc un yakuza, une sorte de gangster, de mafieux japonais, qui avait décidé de changer de vie et de devenir moine. Et je trouvais que le revirement existentiel était assez dramatique, assez intéressant. Donc j'ai voulu partir à sa rencontre.
Et si je vous posais la question, est-ce que vous avez été surprise? C'est que bon, vous dites, en fait, je fais d'abord des films de personnes, de sujets qui me touchent. Et Thomas, tout à l'heure, en début d'émission, me disait que vous ne considérez pas que vous faites des films d'art, vous faites du documentaire ou des films, point. Et, mais en même, temps,
oui.
En même temps, il se trouve que vous faites un film sur une réalisatrice, donc Naomi Kawase, sur un artiste plasticien, Laurent Parente, et puis dans Kijima Story, vous utilisez les dessins de votre frère, me semble-t-il.
Oui.
Oui, donc il y a une forte présence de l'art dans tout ce que vous faites. Donc, c'est, nous, on voit bien le lien, mais moi, je me demande si vous le voyez comme ça, le lien.
Non, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Je le vois pas comme ça, en fait. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que ma filmographie est un peu hétéroclite et que je fais vraiment les films en fonction des rencontres de hasard, comme vous le disiez si bien. Et du coup, sans essayer, moi, quand je regarde ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'une très grande hétérogénéité. Oui, pour moi, oui. C'est très difficile de trouver un film directeur. Et en fait, c'est drôle parce que ce sont plutôt les autres qui trouvent ce film directeur. Alors, ça dépend un petit peu du point de vue où on se place. Et pour Marine et Thomas qui font la programmation des rencontres du film d'art, c'était l'art. Et c'est vrai que... Oui, c'est un thème. Au final, il faut bien que je l'admette. Je le découvre un petit peu en fonction de ce qu'ils m'ont proposé, de l'invitation qu'ils m'ont proposé. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, en effet, il y a cette obsession pour la rencontre avec des artistes et de savoir un petit peu ce qui se cache derrière leur démarche, quelle est leur obsession, comment est-ce qu'ils voient ce qui les traverse, en fait. Voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse assez. Mais c'est vrai qu'au départ, ce sont des... Il n'y a pas de plan de construire une filmographie qui soit cohérente ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ouais. Au contraire, c'est comme les rencontres se font, en fait.
Et d'ailleurs, vous passez du temps, quand vous vous intéressez comme ça, quand vous devez suivre un artiste pour faire un film sur lui, sur sa façon de créer, est-ce que ça veut dire qu'il faut passer du temps avec ? Je vois que le projet, par exemple, du film avec Naomi Kawase, il est né en 2000, que vous avez mis 7 ans à le tourner. Ça veut dire parce que vous avez fait beaucoup d'allers-retours ou c'est pas...
Non, non. En fait, comme vous l'avez dit, je suis aussi critique pour la revue de cinéma positif. J'écris de façon... assez irrégulière en fonction un petit peu de mes libertés que me laisse mon emploi du temps. Et c'est vraiment une grande fierté. Et puis c'est très intéressant en tant que réalisatrice, je trouve, d'avoir aussi une fonction de critique, d'avoir les deux un peu les deux casquettes, les deux positions. Et grâce à ça, en fait, je m'étais rendue au festival du cinéma documentaire de Nyon en Suisse, qui est un des meilleurs festivals d'Europe, je pense, avec une palette très éclectique de documentaires de création. Et c'est là où j'avais rencontré Naomi Kawase, parce qu'elle présentait toute une série de ses films. Elle n'était pas du tout connue à l'époque, c'était vraiment donc en 2000. Et elle présentait quelques films de fiction qu'elle avait réalisés, des longs-métrages et puis des courts-métrages documentaires. C'est vraiment cette œuvre-là qui, moi, m'a le plus touchée. Oui. Et du coup, j'ai réalisé un entretien audio avec elle pour essayer d'en faire une retranscription et de faire paraître éventuellement dans la revue si ça intéressait les autres rédacteurs. Mais il s'avère que lorsque je suis rentrée, tout était inaudible, tout s'était effacé. Donc, l'idée du film part de cette frustration du début. Je pense que, d'ailleurs, la création a beaucoup à voir avec la frustration. Et je me suis dit, comment rattraper ce terrible effacement, peut-être en faisant, là, pour le coup, un film documentaire, un portrait d'elle, et en retournant au Japon, et ce que j'ai fait 7 ans après.
D'accord. D'où le temps qui passe entre les deux, entre les deux rencontres.
Voilà, exact.
Vous arrivez dans ce tournage à un moment charnière dans la carrière de Naomi Kawase, parce qu'il se trouve que La Forêt de Mogami connaît un succès retentissant. Et tout change.
Oui, alors exactement. Moi, j'ai eu la chance, en fait, j'ai candidaté avec ce projet de réaliser un film autour de Naomi Kawase. J'ai candidaté pour la revue La Kujoyama, qui est une résidence d'artiste au Japon, à Kyoto. Et j'ai été acceptée, donc ça c'était vraiment extraordinaire comme expérience. Et ce qui est bien, c'est que cette ville à Kujoyama, qui est à Kyoto, est à 1 heure de train de Nara, qui est la ville natale de Naomi Kawase, là où elle réside le plus souvent. Et je suis allée la voir à plusieurs reprises pour commencer à préparer, je commençais à filmer des entretiens avec elle. Et moi, je suis arrivée, donc c'était en février 2007, et pour le Festival de Cannes
en
2007
mai, donc,
aussi, en mai, exactement, elle a obtenu le Grand Prix avec La Forêt de Mogami. Et là, son statut a complètement changé, parce qu'elle était assez connue, en fait, d'un milieu un peu cinéphile, on dira, en Europe et particulièrement en France. Par contre, au Japon, le grand public ne la connaissait absolument pas. Et peut-être vraiment quelques cinéphiles japonais qui la connaissaient, mais elle n'était pas du tout reconnue dans son propre pays, en fait. Oui, plus connue à l'étranger que dans son propre pays. Et du coup, là, c'est, les médias japonais se sont vraiment emparés de ce prix. C'était déjà le prix en lui-même est prestigieux, mais c'est aussi l'aura de la France à l'étranger, et notamment au Japon, qui a beaucoup joué. Et du coup, elle est devenue plus difficile d'approche. Et, mais on a réussi à faire quelques entretiens, encore un ou deux avec elle. Mais c'était
pas
suffisant pour en faire un film. Donc, on est retourné l'année d'après pour finaliser le film.
Et à l'inverse, en fait, les deux autres films que vous allez proposer sont, racontent plutôt l'histoire de deux personnes qui vont se débarrasser d'un statut. Alors, pour Laurent Pariente, c'est presque un peu dommage de trop dévoiler parce que votre documentaire est monté un peu comme quelque chose de. Il y a quand même un suspense autour de ce personnage. D'abord parce qu'il met du temps vraiment avant. On met du temps avant de vraiment se cerner, mais que fait Laurent Pariente dans la vie ? Qui est-il, à part se promener dans les forêts ? Mais on comprend bien entendu qu'on a affaire à un artiste, mais on met du temps avant de voir son travail, on parle beaucoup de lui au passé, il y a quelque chose de mystérieux, et puis on va avoir une révélation. Mais si les auditeurs n'ont pas encore trop lu le synopsis, venez voir le film comme ça sans trop savoir, sinon de toute façon c'est quand même intéressant, parce que c'est il est intéressant à plus d'un titre ce documentaire, mais notamment aussi parce qu'il montre cet homme dans sa réflexion, dans son rapport à l'art, dans son rapport au monde, et puis après dans sa nouvelle vie. Et puis aussi dans Kijima Sori, vous suivez quelqu'un, enfin on va suivre les traces de quelqu'un qui lui aussi change de vie, change de peau, sort de la peau de Yakuza pour devenir moine. Vous avez quand même un peu l'art de filmer les moments charnières ou de parler des moments charnières dans la vie des gens. Mais ça, bien entendu, vous ne pouviez pas le savoir. Alors, pour Naomi, vous ne le saviez pas, mais pour Laurent Pariente, quand vous l'avez rencontré, c'était un artiste plasticien de renommée qui vivait de son travail de plasticien, c'est ça ?
Oui, exactement. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré aussi au Japon, puisqu'il était mon voisin de studio à la Villa Kujoyama, justement, à la résidence
d'artiste. Il était lui aussi résident.
Il revenait, il avait été résident l'année précédente, et du coup, il revenait parce qu'il avait un projet de jardin japonais.
Ah oui, il en parle d'ailleurs dans votre...
Métallique, en fait, pas de jardin japonais, inspiré des jardins japonais qui utilisent beaucoup la pierre et quelques éléments végétaux, et lui, il voulait décliner ce concept et utiliser de l'aluminium en fusion, du cuivre, créer des jardins tels qu'il m'en décrivait. Il me les décrivait, je les voyais apparaître sous mes yeux, et c'était des petits bijoux, en fait. J'avais vraiment... C'est justement parce qu'il avait une puissance d'évocation très forte et qu'il a réussi à créer dans ma tête des images et à me transmettre sa passion pour ces jardins qu'il avait juste créés en imagination, que ça m'a donné envie de travailler avec lui, en fait. Et du coup, voilà, est née cette idée de la collaboration. Et on a dit, on va essayer de travailler ensemble. Mais en fait, comme le film le dit, il est passé par plusieurs stades. Alors, on essaye de ne pas déflorer le film, pour quelqu'un de l'extérieur, et par exemple ses galeristes ou des critiques d'art qu'il connaissait très bien, ils vont penser que c'est une vie en rupture et qu'il a décidé de passer à autre chose, à choisir une autre vie que celle d'artiste plasticien. Mais pour lui, au contraire, et c'est ça que je trouvais très intéressant, et c'est pour ça que je voulais en faire un documentaire, pour lui, c'est au contraire une continuation, une transformation, qu'il a jamais quitté le statut d'artiste, mais que cette capacité d'émerveillement, de réinterprétation du réel, il le fait différemment. Peut-être pas dans une œuvre plastique, mais de façon différente.
C'est très fort. Parce que justement, le galeriste du départ en parle au passé, carrément. Et moi, je me suis demandé si Laurent Pariente était mort. Mais bon, on n'essaie pas trop en dire, mais... Mais il y a quelque chose, en tout cas dans la continuité, qu'on sent très très fort chez cet artiste. Et notamment le fait que c'est toujours la même source d'inspiration, la nature, des moments comme ça. Donc le film s'ouvre et il se promène dans une forêt, puis dans une grotte. Chez Naomi Kawase, bien entendu, la nature est aussi omniprésente. Et d'ailleurs, vous laissez courir votre caméra dans ces paysages, dans ces éléments. Et c'est un dialogue entre vous et l'artiste. Enfin, c'est quelque chose qui vous porte aussi, ces moments de contemplation ou cette présence de la nature. Ou par exemple, il y a un moment aussi, je crois que c'est dans Kijima Story, mais où il y a la pluie qui tombe tout simplement et on entend la pluie qui tombe. C'est quoi cette place de la nature? C'est dans vos films et dans l'art aussi.
Oui, c'est drôle que vous pointiez ça, parce que là, encore une fois, c'est pas du tout quelque chose de conscient. Jusqu'à ce que vous m'en parliez, j'ai pas vraiment l'impression d'accorder tant d'importance que ça à la nature. Mais maintenant que vous m'en parlez, c'est vrai. Il faut que je l'admette aussi. Je ne saurais dire. Alors, pour moi, en plus, la façon dont la nature apparaît dans les trois films est vraiment différente. Dans celui sur la réalisatrice Naomi Kawase, sont des petites choses très de la vie quotidienne, oui. Un rapport un peu quotidien à la nature, comme en fait un peu un hommage à ce que fait Naomi Kawase aussi, qui est une réalisatrice qui va filmer un petit peu la banalité de la vie quotidienne, mais dans tout ce qu'elle a l'offre de beau et de contemplatif, en effet. Pour Laurent, par exemple, l'utilisation de la nature, parce qu'en effet, on le voit déambuler dans des forêts, dans des trous végétaux très sombres, dans des grottes, auprès de falaises, etc. En fait, lui, c'est pas forcément un grand promeneur. En fait, maintenant, il habite à New York, donc au contraire, il devient un urbain hyper, très très citadin. Mais là, l'utilisation de la nature, c'était permettre aux spectateurs de se projeter sur un paysage. Puisque la particularité des œuvres de Laurent Payan, c'est que c'est un plasticien qui va faire des œuvres assez monumentales, dans lesquelles même le spectateur peut se promener dans ses œuvres. Et pourtant, pour monumentales qu'elles soient, il les détruit à chaque fois, en fait. Il joue sur ce côté
de l'œuvre éphémère. Oui.
De ses œuvres. Et du coup, pour la cinéaste que je suis, c'était difficile pour moi de filmer tout simplement son œuvre, parce qu'elle n'existait plus.
Oui, oui.
Donc il fallait trouver comme un support pour le spectateur. Et le fait de voir ces paysages, d'ailleurs, beaucoup de films a été tourné en grande partie en Dordogne, justement parce que il y a toutes ces grottes mystérieuses.
Ces forêts épaisses,
de carrières abandonnées, etc., qui pour moi offraient une sorte d'écran pour que le spectateur lui-même puisse se projeter son propre film.
Mmh.
Et voilà, moi j'aime bien aussi quand le spectateur a un peu de marge, un peu de liberté pour recréer lui-même, en fait, un film. Que les images ne lui imposent pas tout et qu'il puisse les réinterpréter et se créer son propre fantasme d'œuvre, de film.
Oui, oui. C'est bon, voilà, ça va exactement dans la discussion qu'on a amorcée avec Thomas, qui expliquait que le film d'art n'est pas une explication vous allez tout comprendre grâce à mon film. et du coup, là, vous allez rencontrer le public autour de ces œuvres-là. Je suppose que vous devez recevoir beaucoup de questions sur les personnes que vous filmez, forcément, parce que du coup, vous montrez, peut-être que des gens vont découvrir Laurent Payan, Naomi Kawase. Ça fait partie du jeu, du coup, quand on filme un documentaire sur un créateur, du coup, les questions sont peut-être plus centrées sur le créateur filmé que sur le créateur qui filme.
Ah oui, mais moi, ça me va très bien.
C'est une position qui vous plaît.
Ouais. C'est justement... En fait, je pense que les documentaristes, les personnes qui font des documentaires... d'une certaine manière, invite d'autres personnes dans leur film pour qu'ils parlent à leur place. C'est comme ça que je vois les choses. Et souvent, lorsque il y a des documentaristes que j'aime beaucoup, comme Fred Wiseman, Alain Cavalier, voilà, des personnes voilà très talentueuses, j'ai l'impression qu'elles tracent leur propre autoportrait grâce à la parole des autres. Ouais. Donc le fait de parler des autres, moi ça me convient très bien. C'est peut-être une forme de timidité, mais j'aime bien que ce soit les autres qui apparaissent à l'écran. Et puis c'est un plaisir aussi de partager ce qui vous touche, ce qui vous a ému, ce qui vous a bouleversé, ce qui a changé votre façon de voir grâce à un artiste, grâce à un créateur, et de le partager avec le public et voir si ça résonne aussi en lui. Donc non. Ça
vous va bien, ça vous va très
ça
bien.
Ça me va bien. Ouais.
Donc vous serez à Saint-Gaudens jeudi, le 26 janvier. Je regarde Thomas, c'est bien ça?
Oui.
Et vous allez présenter Rien ne s'efface et là-bas souffle le vent. Donc le film sur Naomi Kawase et Laurent Pariente. Et puis aussi dans le festival est programmé Kijima Stories le même jour à 14h.
Et le frère de Laetitia, Nathanaël Michaels, qui est dessinateur, aussi propose une exposition de ses dessins qui ont servi dans le film Kijima Stories. Voilà, donc ce sera aussi dans le... vous pourrez aussi, entre deux films, voire entre 10 films, aller découvrir son œuvre. Voilà.
Mais bien, merci beaucoup. On vous souhaite de belles rencontres alors à Saint-Gaudens. Merci d'avoir été présente avec nous par téléphone.
Merci.
Au revoir.
Merci.
À jeudi.
Au revoir.
Ciao.
Eh bien, il nous reste encore à peu.
Il ne nous reste plus rien du tout.
Mais juste quelques petites informations pratiques.
Il reste
pratiques.
Tout maintenant. C'est
il
venir
reste
au festival.
Tout. Il faut venir au festival. J'ai lu sur le site qu'il y avait des travaux d'accès. Donc l'accès au cinéma se fait.
Oui. Alors en fait, la rue pour faire. Très vite, la rue est en travaux car la mairie refait la rue. Donc, c'est pour un mieux parce qu'elle va être très chouette.
Ouais.
La rue à sens unique. Donc, vous inquiétez pas, elle risque d'être barrée parce qu'on n'en est pas trop au courant de l'évolution des travaux. Mais elle risque d'être barrée. Mais l'accès par l'autre côté de la rue est autorisé. Elle est plus à sens unique pendant la durée des travaux. Donc, il faut juste contourner. Il faut juste la contourner. Et puis, c'est assez logique pour la contourner. On cherche à aller à la rue parallèle qu'il y a derrière.
Et il y en a une.
Bon, voilà, il y a le parking du cinéma. Et puis, il y a un supermarché au bout de cette rue où vous pouvez vous mettre aussi et puis venir à pied parce que c'est pas très loin.
C'est pas très loin.
Exactement.
Bien.
Et la mairie de Saint-Gaudens, d'ailleurs, j'en profite, est partenaire depuis 2 ans, nous donne nous soutient et ça nous permet de faire certaines choses plus facilement.
Ouais. Et puis, il faut le signaler parce que s'engager sur un festival
exactement,
du film d'art.
Oui, c'est pas une évidence.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon festival.
Merci beaucoup pour l'accueil.
On viendra voir, on pourra raconter au micro ce que nous avons retenu. Vous avez une très belle affiche immanquable avec D'après les araignées de Louise Bourgeois sur fond rouge. Je rappelle donc les rencontres du film d'art, ça commence jeudi. C'est jusqu'à dimanche, ça se passe au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens. Il y a un site dédié au festival, tu vas donner l'adresse parce que là...
C'est www.lesrencontresdufilmedart.com, tout attaché.
Bon, et puis on va se quitter, non pas avec le générique de Cinématok, mais avec Liquid, un morceau qu'on entend.
Ah oui.
Ouais. Donc on entend dans le film sur Basquiat, c'est le morceau s'appelle Caverne. Ouais, c'est bien. Alors je dois reconnaître que c'est un ami qui m'a dit quand j'écoutais la bande annonce, il m'a dit c'est un vieux morceau, j'ai le vinyle. Je dis waouh. Et du coup il m'a donné le nom et comme ça on peut écouter. Cinématok revient la semaine prochaine. D'ici là vous pouvez rester à l'écoute de Canal Sud 92.2. Et bien, bonne rencontre et merci beaucoup Thomas de ta présence.
Merci à vous, merci.
On se quitte avec Liquid.